Nous allons écouter ensemble trois lectures. La première dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Nous retrouvons Jésus avec ses disciples à partir du verset 66. Je lis. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Deuxième lecture se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, je lis à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je lis maintenant un dernier verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, le verset 1. Romains 1, 1. Donc le tout premier verset de cette lettre, je lis dans ma traduction, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Peut-être quelques-uns d'entre vous se souviennent d'une prédication que j'ai apportée ce printemps qui s'appelait « La double tunique ». Ce qui était là en tout cas. Voilà, il était question d'une tunique, d'une double tunique, à la fois une tunique de serviteur et une tunique royale. Cette tunique, Jésus-même l'a portée. Jésus lui-même l'a portée quand il était sur la terre. Il était roi d'Israël, il était aussi un serviteur. Et cette tunique, chacun de nous la porte. Tunique de serviteur, de servante, et tunique royale en même temps, qui nous rappelle notre abaissement et notre élévation en même temps, notre pauvreté et notre dignité. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous rappelons cela tout spécialement. Nous revêtons de nouveau cette double tunique de serviteur qui porte aussi la marque d'une tunique royale. Mon message aujourd'hui, à partir du verset premier de chapitre 1er de la lettre aux Romains, prolonge en quelque sorte ce que nous avions dit à ce moment-là. Et je voudrais présenter trois thèmes, l'appartenance, le dévouement et le reflet. L'appartenance, le dévouement et le reflet. J'espère que ce sera clair. L'appartenance tout d'abord. Vous savez peut-être qu'il y a deux mots en grec pour dire serviteur. Voilà, le mot diakonos et le mot doulos. Bon. Diakonos a donné le mot diacre. Le diacre est quelqu'un à qui on a confié une tâche. Quel qu'il soit d'ailleurs, les apôtres se disent aussi diacres. Alors ils ne sont pas diacres parce qu'ils sont apôtres, mais ils sont aussi des serviteurs parce qu'on leur a confié une tâche, peu importe la tâche, et ils l'accomplissent avec une mentalité, avec un désir de serviteur. Quand Paul dit par exemple dans Romains 13, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, il emploie le mot diakonos, pourtant il ne dit pas le magistrat chrétien, il dit le magistrat. Il est serviteur, il n'est pas là pour lui-même, il est là pour rendre un service, et c'est Dieu qui lui a demandé de le faire, pourvu qu'il le fasse bien. Quand Jésus dit, je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup, il emploie le mot diakonos, le verbe diakoneo. Au début de cette lettre, donc, Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Mais dans le grec, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. Alors, pour ne pas faire peur, les traducteurs ont traduit serviteur. Et donc, ça coule assez bien, ça sonne assez bien. C'est important comment les mots sonnent à nos oreilles. Hein. Aujourd'hui, c'est très important. Vous dites un mot qui sonne bien, même si c'est une bêtise, on dira bravo, c'est très bien. Si vous employez un mot un peu difficile, eh bien, on va vous regarder de travers, même si ce mot est juste et nécessaire. Bon, c'est comme ça. En tout cas, le traducteur aurait dû traduire hein, « Paul, esclave de Jésus-Christ ». Ah, ça fait un peu un drôle d'effet, hein. Mais c'est ce que Paul dit. Il ne dit pas « diakonos », il dit « doulos ». Et « doulos » veut dire « esclave ». Alors, quelle est la différence entre un serviteur et un esclave ? En un sens, il n'y a pas de différence. Tous les deux font ce qu'on leur dit. Et ils le font normalement le mieux possible. La différence quand même, c'est que l'esclave porte dans son corps la marque de son statut d'esclave. Il appartient corps et âme à son maître. Il fait tout ce que son maître lui dit. On pourrait dire qu'il ne fait que ce que son maître lui dit. Il attend de son maître tout ce qu'il doit faire, pas simplement pour une saison d'été, pas simplement pour 3 ans, jusqu'à sa mort. Il appartient entièrement à son maître. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le voit. Est-ce que ça vous fait penser à la position du chrétien ? Ça pourrait. Je pense à Paul, après sa rencontre avec Jésus, qui dit « Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ?» Donc Paul vient de s'incliner, il est en train de recevoir la marque de l'esclave, et le Seigneur lui dit « Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » On te dira ce que tu dois faire. Vous vous rappelez peut-être que Jésus avait dit la même chose ou avec d'autres mots à l'apôtre Pierre. Hein? Un autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas aller. Ah, c'est difficile à entendre, n'est-ce pas? Et effectivement, le mot esclave est négativement connoté quand il arrive à nos oreilles. Et j'ai pensé que c'était pour deux raisons. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais il faut bien commencer par une. Une des raisons, c'est évidemment le désir d'autonomie, d'indépendance, d'autogestion qui habite naturellement en chacun de nous. On le voit chez les enfants, mais pas que chez les enfants. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, si je veux. Voilà. La Bible et l'expérience montrent que celui qui pense comme cela en réalité, est esclave de lui-même et de ses propres désirs et de ses propres caprices et de ses propres pulsions et passions. Comme le jeune homme riche, qui s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et on a lu dans le psaume 119 tout à l'heure, au verset 11, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» en se dirigeant d'après ta parole, et donc en se soumettant à quelque chose d'autre qu'à lui-même. Voilà. Et le jeune homme est parti triste de cette rencontre avec Jésus, et quelqu'un a appelé cette attitude l'idolâtrie du moi. C'est-à-dire, c'est moi qui donne la direction, c'est moi qui décide, c'est moi qui définis, c'est moi qui détermine. Le règne de la subjectivité. J'ai distribué au pasteur de la région cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, cette semaine, un article qui s'appelle « La foi à l'heure de la subjectivité ». Étonnant cet article. Si quelqu'un le veut, je lui envoie. En gros, l'auteur dit, avant on disait « la Bible dit », maintenant on dit « je pense que ». C'est pas tout à fait pareil, hein. Mon opinion, c'est que. Mon avis, c'est que. Bon, on n'a plus la peine de se c'est plus la peine de se soumettre à personne. Il suffit de raisonner en soi-même et de dire ce qui nous vient à l'esprit. La deuxième raison pour laquelle le mot esclave résonne difficilement, c'est parce que beaucoup de maîtres ont été durs quand même. Beaucoup de maîtres ont été durs. C'est une autre raison. Ils ont été insensibles. Ils ont été injustement dominateurs, parfois violents. Ils ont été de mauvais maîtres et les esclaves ont souffert de cela. Cependant, l'histoire montre que certains maîtres ont été bons. Et il est arrivé que des maîtres disent à leur esclave, « Tu m'as servi depuis longtemps, maintenant tu peux aller. » Et l'esclave dit, « S'il vous plaît, mon maître, gardez-moi à votre service. » Je ne l'invente pas. C'est arrivé. C'est-à-dire, il n'y a pas de meilleur lieu pour moi que d'être dans votre maison et de faire ce que vous me demandez. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à la situation d'un chrétien? Et je pense par exemple au centenier de Luc 7 qui dit « Seigneur, donc un Romain quand même, hein, viens dans ma maison car mon esclave est malade. » Et donc l'esclave n'a pas besoin de se soucier de lui-même, quelqu'un d'autre se soucie de lui, c'est son maître. Aujourd'hui on dit « Prends bien soin de toi, c'est pas la peine, Dieu prend soin de moi. » Bien sûr, je ne dois pas faire n'importe quoi. Voilà, mais quelqu'un prend soin de moi. C'est pareil dans un couple. Elle prend soin de lui, il prend soin d'elle. Plus besoin de défendre sa part, n'est-ce pas? Quelqu'un s'en occupe. Et moi, je m'occupe aussi de lui ou d'elle. C'est très beau. Nous avons, en tant que chrétiens, un maître parfaitement juste et bon. Et pour celui qui en douterait, le psaume 119, quand même. Si vous allez mal, relisez le psaume 119. Bien sûr, il y a le 23, puis il y a le 24, le 25. Mais le psaume 119, franchement, c'est que des perles. C'est un collier de perles. Que de bénédictions dans les affirmations de ce psaume. Mon deuxième point, c'est le dévouement. Quand Paul se présente comme esclave de Jésus-Christ, il dit son amour pour Jésus-Christ. Ben, j'étais tout heureux d'avoir trouvé cette affirmation, parce que je la trouve juste et finalement très belle quand même. Quand Paul dit « Paul, esclave de Jésus-Christ », il dit son amour pour Jésus. Pas besoin de chaînes. Les chaînes, c'est les Romains qui l'allumeront. Ou bien s'il se dit peut-être quelque part enchaîné par l'Évangile, ce sont des chaînes dont il ne faudrait jamais se défaire, n'est-ce pas? Surtout jamais. Alors on pense à la parole de Jésus, « Nul ne peut servir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé ». Il y a même un chant qui le dit. Et donc on comprend qu'avec l'appartenance, il y a le dévouement. Il y a le dévouement. Il y a la fidélité. Le mot « dévouement » vient du verbe « dévouer » ou du verbe « vouer » qui veut dire s'offrir, se consacrer, appartenir à quelqu'un, avec même l'idée de sacrifice. Il y a le mot offrande, il y a le mot consécration, le mot sacrifice. Ces mots sont dans la Bible, vous le savez bien. Est-ce que c'est triste? Cette question m'est venue cette nuit, donc mes notes ne sont pas les mêmes que celles que j'ai données pour être photocopiées là. Est-ce que c'est triste? Et je me suis dit, c'est triste sans amour. S'il n'y a pas l'amour, c'est triste. Voilà. Le mercenaire, à qui on a confié des brebis qui ne lui appartiennent pas, quand il voit venir le loup, vous savez ce qu'il fait, hein? Il s'inquiète pour lui, il s'en va, tant pis pour les brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi je dis, sans amour, c'est triste. Avec amour, c'est pas triste. Avec amour, c'est pas triste. Le problème, c'est l'amour, on pourrait dire, hein? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. dans sa deuxième lettre à Timothée. On a lu ce texte, c'était le texte du moment de prière de jeudi matin à la clinique. L'apôtre Paul qui dit, un peu comme un testament, « Pour moi, je sers déjà de libation. » Ça veut dire d'offrande. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pas triste. C'est pas triste du tout. Mais si l'amour manque, alors servir est triste. Renoncer est triste. Donner sa vie est triste. Quand l'amour manque, on cherche plutôt à accaparer, à ajouter, à cumuler. Mais quel fruit cela va-t-il porter? J'ai mentionné déjà, mais je le redis, la fiancée du Cantique des Cantiques, hein, « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Et elle ne dit pas ça dans un esprit possesseur, accapareur, dominateur, elle dit ça dans un esprit de service mutuel. Voilà. « Je suis la servante de mon bien-aimé et il est mon serviteur. » Et si l'un ou l'autre avait une défaillance, il y a quelqu'un qui va combler la défaillance. Voilà. Quelqu'un va combler la défaillance qui prend soin de moi. Voilà. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Nous avons lu cela tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens. Est-ce que ça signifie être prêt à mourir? La réponse est oui. Voilà, il faut le dire. Sinon, c'est que du marchandage. Sinon, nous sommes des profiteurs. Profiteurs. Comment ça résonne ce mot à votre oreille? Voilà. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour celui qui a donné sa vie pour nous, nous sommes des profiteurs. Y compris quand on loue le Seigneur, y compris quand on écoute de la musique, hein, on est des profiteurs. Quand l'apôtre Paul dit « esclave de Jésus-Christ », c'est autre chose, n'est-ce pas? C'est autre chose. Et il dit à Timothée « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». On n'est pas chrétiens, frères et sœurs, seulement parce que ça nous aide à vivre. On est chrétiens par amour pour celui qui nous a aimés. Il est vrai, c'est une parenthèse dans mes notes, il y a le risque du fanatisme. Nous en sommes loin. Nous en sommes bien loin. Voilà. Le fanatique dépasse la mesure. Ce matin, ce que je tente de rappeler, c'est la juste mesure. C'est celle de la foi. Est-ce que je peux, comme Paul, me regarder comme un esclave de Jésus-Christ, de telle sorte que ce soit un sujet de joie pour moi ? Et non pas de tristesse. Mon dernier point sera un peu plus court. C'est le reflet. Le serviteur porte la marque de son appartenance, il porte la marque de son dévouement, il est aussi en lui-même un reflet de son maître. Peut-être on dit quelquefois le serviteur est fini par ressembler à son maître. Même ses mimiques, même ses manières, même son vocabulaire deviennent ceux de son maître. On reconnaît son maître quand on voit un serviteur. Et j'ai pensé à l'époque des calèches. De temps en temps, j'ai des nostalgies de l'époque des calèches que je n'ai pas connues quand même. Hein. Voilà. Et donc, à cette époque-là, il y avait des laquais. Des laquais. Et les laquais portaient une livrée. Une livrée. C'est la tenue des laquais. Voilà. Et chaque serviteur avait une livrée qui était la livrée de son maître. Hein. Et donc on reconnaissait de loin, tiens, c'est le serviteur de lui ou d'elle, pourquoi pas. Et donc le laquais portait la marque de son appartenance, de son dévouement, mais il était le reflet de son maître. On disait, ah, ce laquais a un bon maître. Il est bien tenu, il est souriant, il a l'air paisible. Quand son maître lui demande de faire quelque chose, son maître lui donne la possibilité de le faire. Il ne dit pas comme ça n'importe quoi. Le maître se soucie de ses serviteurs. On le voit quand on regarde le serviteur. Le serviteur porte sur lui la marque qu'il appartient à un bon maître. Et qu'il est content d'être là et de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc il porte la double tunique du serviteur et du maître, quelque part. Et cela, encore une fois, correspond à la vocation du chrétien. Et là où nous sommes, en tant que chrétiens, le Christ est représenté, frères et sœurs. Et que vous ayez mal au dos, à la tête, ou je ne sais pas où, ça ne change rien. Là où est le chrétien, le Christ est représenté. Et ce qu'on fait à un chrétien, on le fait à Jésus-Christ, en bien ou en mal. Plein de versets bibliques le disent. Et donc c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine peut-être. Dernière question. Est-ce que l'esclave aimé et aimant doit faire un effort pour ressembler à son maître? Ah. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non. Le caractère de son maître s'inscrit en lui, mystérieusement, et c'est pour lui devenu comme un réflexe de vouloir ce que son maître veut et de dire oui. Et ça ne lui viendrait même pas à l'idée de dire non ou de dire « Attends un peu, je suis occupé à autre chose. » Voilà. Et donc le serviteur, il est, comme je l'ai dit, un reflet et il finit par... Il est le prolongement de son maître. En tant que chrétien, ça ne nous fait pas peur, hein, d'être le prolongement de notre maître. Il me semble que la parabole du cep et des sarments dit un peu ça quand même. Hein. Et remarquez, c'est la même sève qui est dans le cep qui va dans les sarments. Ce n'est pas une autre sève. Il n'y a pas deux sèves différentes. Comprenez? Et c'est pourquoi le sarment reflète le cep. Le raisin reflète le cep. On reconnaît l'arbre à son fruit. Un viticulteur dit, voilà, ce cep, c'est du, je ne sais pas quoi, du Clinton, ou c'est du muscat, ou c'est du je ne sais pas quoi encore. Voilà, du merlot. Bon. Et donc, quand nous aimons la parole de Dieu, et nous sommes là ce matin pour le dire et pour le vivre, n'est-ce pas, et renouveler notre alliance, quand nous lisons le psaume 119, quand nous aimons la parole de Dieu, quand nous nous attachons à elle, cette parole produit en nous le caractère même de notre maître. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des commandements, c'est une parole qui est créatrice, c'est une parole qui donne la vie en même temps de demander de choisir la vie, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, le psaume, quand le jeune homme serre la parole de Dieu dans son cœur, il s'inscrit naturellement, pour reprendre aussi ce que dit un psaume, non seulement il trouve un chemin tracé devant lui, mais dans son cœur, il trouve des chemins tout tracés. Quelle belle expression, hein? Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc, ce n'est pas simplement les circonstances de la vie, c'est son cœur même est façonné par son maître à qui il appartient. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Que c'est beau, frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, suis-je heureux d'avoir Jésus pour maître? Suis-je fier d'avoir Jésus pour maître? Suis-je désireux que tous le sachent? Que chacun puisse voir et savoir que je sers ce maître à qui j'appartiens par amour pour lui, étant d'abord aimé de lui. Et j'ai pensé à ce chant que j'aime beaucoup, un chant que peut-être quelques-uns connaissent aussi. Je lis les premières paroles. Le mal est là et Satan gronde. Dites, amis, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour les cordages par lesquels tu nous as attachés à toi, par lesquels encore maintenant tu nous attires à toi, pour que nous soyons là où tu es, pour que tu sois là où nous sommes, captifs, on pourrait dire l'un de l'autre, puisque tu habites dans nos corps par ton esprit et nous habitons en toi. Sommes devenus, Seigneur, une demeure pour toi, tu es devenu une demeure pour nous. Où irions-nous? Quelle folie, Seigneur, que de vivre sans toi. Alors ce matin, pendant que nous avons écouté, pendant que nous avons chanté, eh bien, nous t'avons invité à affermir et renouveler ces liens d'appartenance. Et qu'ils soient aussi pour nous des liens de dévouement et des liens de ressemblance, Seigneur. Et ce n'est pas à nous de juger pour nous-mêmes si nous te ressemblons ou pas, c'est toi qui le fais. Comme ta parole le dit, tu nous transformes à ta ressemblance, Seigneur. Peut-être même quand nous dormons, chaque fois que nous disons oui, nous te ressemblons un peu plus. Quelle joie, Seigneur, de te connaître et de t'appartenir, et de faire ta volonté et non la nôtre, car elle est bonne et juste et désirable. Que ta volonté soit faite, notre Dieu, dans nos vies, au milieu de nous, comme au ciel. Amen.